Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air, là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies, hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
www.libradio.org. La radio toute feu, toute flamme.
Nous sommes le 10 janvier 2020, ici, sur la place, disons la place de l'écurie. C'est au 14 rue de Montbrillant. L'écurie, c'est donc un lieu duquel nous allons parler maintenant, avec trois personnes devant moi qui sont parmi l'équipe fondatrice de l'écurie, qui vont, pour commencer, se présenter. On va faire un petit tour de table où vous direz comment est-ce que l'on vous nomme. Et puis, on va ensuite parler de cette écurie, de quelle manière est-ce qu'elle s'est créée, de quelle manière est-ce qu'elle a affleuré, et quelles en sont les aspirations, quelles en sont les postures. Et puis ensuite, on aura une troisième partie où les personnes autour de nous pourront, si elles le souhaitent, vous questionner. Mais commençons par le début. Voudriez-vous vous présenter à tour de rôle, en commençant peut-être à droite?
Volontiers. Moi, je suis Marcel. J'aurais voulu juste rectifier un peu les termes parce que tu parles de l'écurie. Donc, on est ici devant la maison des habitants de l'îlot 13. À l'origine, le lieu qui a été ouvert, c'est la buvette. Et juste à côté, il y a l'écurie qui est la salle de concert de la maison des habitants. Juste pour rectifier ça.
Absolument.
Je passe volontiers la parole à Alexandre qui nous a réunis ici ce soir et qui a plein de choses à dire, je crois. Et après,
on entrera dans le vif du sujet.
Exactement.
Merci, Marcel.
Ok, moi, c'est Alexandre. Que puis-je dire? Que je suis un ancien squatteur, mais pas seulement, un tas d'autres choses aussi. Que j'ai 60 ans, que je suis très fier parce que j'ai un de mes fistons qui est ici. Et aussi parce que ce soir, c'est génial, parce que cette occasion, c'est de se retrouver deux vieux potes qui sont Marcel et Serge, que je suis très... Et Marie-Lou et tout plein d'autres qui sont des gens de l'époque. Et que, effectivement... je suis très content aussi d'avoir cette occasion de pouvoir parler de la création de cette buvette.
Merci Alexandre.
Voilà, alors moi je m'appelle Serge et j'ai habité pendant très peu de temps dans ce quartier, mais j'ai toujours été dans ce mouvement d'habitants, de squatteurs et qui continue maintenant avec des beaux associatifs.
C'est important de le dire, ça continue maintenant. Voilà. Très bien. Je vous demanderai juste de bien parler dans les micros, de les approcher bien de votre bouche lorsque vous vous exprimez. Merci beaucoup pour ce tour de table bref mais précis. Alors commençons directement, on va entrer dans le vif du sujet. Alors vous parlez d'une époque, de quelle époque s'agit-il? Il faudrait la replacer dans le calendrier et également dans son contexte, le contexte politique, social. Qui a envie de se charger de cela? Chacun de vous peut évidemment émettre son ressenti.
Ouais, moi je sais.
Allez, c'est parti Marcel, dis-nous.
Moi, j'ai eu la chance, je suis un immigré à Genève, hein, je suis un Vaudois qui a débarqué ici un beau jour, et je suis tombé sur le Conseil Général. Le Conseil Général, c'est un squat à la rue du Conseil Général, comme son nom l'indique, dans lequel Serge, mon ami, était actif. C'est quelque chose pour quelqu'un qui vient d'Yverdon d'assez, impressionnant. Voilà, c'est l'autogestion, c'est la prise en charge d'un immeuble, l'émission dans un quartier, tout ça. Et j'étais très inspiré par cette chose et je me suis dit que c'était un joli travail à faire. Et donc, je suis tombé sur l'îlot 13 qui était un ancien quartier, un quartier un peu abandonné qui avait été acheté par des promoteurs qui étaient prêts à la démolition, entièrement habité par des immigrés espagnols pour la plupart, avec des cafés qui ouvraient grâce à la rue des Gares de 2h du matin jusqu'à 4h du matin tous les jours, donc avec une vie quand même assez...
Intense,
ouais. Beaucoup de vie et tout ça. Et puis nous, si je vais sur l'histoire de la maison des habitants, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait maintenir ce quartier, lui donner une vie et tout ça. Et un beau jour, en discutant avec Serge, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette petite maison de 14 Montbrillant, une maison deux étages surélevée, prête à la démolition. Mon ami Serge, il dit tiens, on pourrait faire un bistrot. Et puis c'est ce qu'on a fait, et c'est le départ un peu du centre de ce nouveau quartier qui, comme il l'a dit avant, s'est prolongé avec des coopératives, avec des associations, etc.
Ok, moi ce que j'aurais envie de compléter, c'est que effectivement Serge a eu cette idée de dire que c'était un bistrot, et c'est quand même une sacrée coïncidence parce que c'était à l'origine un bistrot, puisqu'en fait c'était une débridée, c'est-à-dire que on est la rue de Montbrillon, c'était la route de Paris, c'est-à-dire que les commerçants qui venaient de Paris passaient par cette route, et avant d'aller faire le marché le lendemain à Genève, si j'ai bien compris, ils s'arrêtaient. Ils arrivaient souvent le soir et ils s'arrêtaient, et il y avait une écurie qui les accueillait et une buvette, enfin un restaurant avec un hôtel à l'étage. Et en fait, on n'a fait rien d'autre que de redonner à sa fonction d'origine un lieu. Et c'est marrant parce que le premier jour qu'on a ouvert, on était là les trois, toute une série de, on était toute une équipe, et les gens sont arrivés au bar, ils sont mis au zinc, et ils ont dit, mais on a l'impression que ce lieu a toujours existé, il y avait une âme dans ce lieu. On retrouve encore le passe-plat, on a trouvé plein les vieux verres dans la cave, on a trouvé plein de choses, et en fait ce lieu est un bistrot, il a une âme, il existe. Il a simplement eu une époque où il a été, il est devenu un dépôt, mais voilà.
Oui, je crois juste me souvenir, Alex, qu'en fouillant dans les archives du service du commerce, tu avais trouvé que de 1840 à 1950, il y avait une patente pour ce bistrot-là. C'est ça un peu qui nous avait... Ça s'appelait l'hôtel du commerce ou des commerçants.
Bon, faut quand même imaginer que, en l'occurrence, c'était plutôt un trou, une cave. Il n'y avait plus rien du tout, mais vraiment rien du tout. Il y avait juste deux volets et puis et pas de vitrine, pas de... Alors, il y a des éléments, comme Alexandre a dit, qui restaient des petits éléments, mais en gros, voilà, il y avait un bateau en fin de vie, un tas de bordel innommable, et puis rien qui laissait vraiment penser qu'on allait réhabiliter ce bistrot.
Et justement, la question qui se pose, c'est comment on a réussi à faire qu'un lieu qui était un dépôt a pu retrouver sa splendeur.
Alors voilà, comment ça s'est passé, la genèse de la... Parce que c'était d'abord la maison des habitants, et puis ensuite le bar est né consécutivement ou quasiment simultanément, et ensuite la salle de concert. Dans quel ordre c'est allé et comment se sont installées les choses?
Ouais, en fait, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire d'abord on a occupé, donc à l'époque c'est le quartier est occupé à je sais pas 50 ou 60%.
L'époque c'est quelle année à la louche.
Les occupations ici, elles ont commencé fin 84-85. Le premier exercice, comment dire, qu'on appelle ça, l'ouverture de la buvette, c'est 1991. Donc c'est passé une période, on commençait à passer au contrat de confiance avec Claude Aiguille, vous connaissez ça. Ce que je disais, c'est l'idée pour sauver cet immeuble. Cet immeuble, il est mal placé au niveau des promoteurs. Il est destiné à être rasé. Donc, comment est-ce qu'on peut lui donner une vie? Ça commence par la buvette. Et finalement, ça finit par une maison des habitants. C'est comme une maison de quartier, mais sans programme officiel. Et donc, avec un droit de superficie, on a obtenu, l'association de quartier ici, les habitants d'Ile 13, ont obtenu un droit de superficie sur 30 ans. Qui court donc depuis maintenant, on est à peu près à la moitié, on peut dire 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas. Et donc un programme avec la participation des habitants pour la rénovation, la mise l'immeuble plus ou moins aux normes au niveau structurel, et puis les habitants sont occupés de financer le programme, l'occupation de l'immeuble.
Comment se sont passés ces premiers temps d'occupation? Est-ce que les gens alentour étaient soutenants? Les médias, qu'en étaient-ils à cette époque-là? On sait que le squat à Genève a eu plusieurs époques. Et qu'en étaient-ils des politiques et des institutions? Vous voyaient-elles d'un bon œil? Ou est-ce que ça a été assez rapidement? Parce qu'on sait, après les aventures, on n'a pas parlé du prieuré, mais il y a eu des moments assez compliqués également. Comment ça s'est passé ici? Est-ce qu'il y a-t-il eu des heurts? Ou est-ce que finalement, il était clair que ça allait rester?
Je pense que c'était un peu la fin d'une période de détente où le magistrat de l'époque, Claude Aiguille, avait accordé des prêts, des contrats de confiance, ce qu'ils appelaient des contrats de confiance, et puis en fait, qui était une sorte de location sans aucun droit pour les habitants et pour les collectivités qui les avaient. Il y a eu l'usine, il y a eu la tour,
il y avait le Rhino,
tous ces lieux. L'ambiance commençait à se durcir un petit peu, c'était un peu la fin de cette période, non, Marcel?
Ouais, moi je vois plutôt, en fait, il y a cette période dont je parlais avant, conseil général, ces immeubles, Racine et tout ça, qui était un peu compliqué. Enfin, il y avait donc le conseil d'État Grobet qui soutenait. Après, on a passé à la période Courdégui, Bertossa, procureur général, avec une certaine tolérance. C'est un peu entre les deux. Bon, c'est difficile, mais c'est des périodes qui s'enchaînent les unes après les autres. Je pense que ce qui s'est passé à l'île aux Trèses d'un petit peu différent, c'est que les habitants, ils ont posé les jalons pour l'avenir. Ça veut dire faire des coopératives, prendre des responsabilités, emprunter de l'argent, investir pour passer en coopérative et pour tâcher de durer dans l'avenir. On a vu qu'ils ont misé sur le bon cheval, vu que quelques années après, tous les squats ont disparu et que quelques endroits ont pu perdurer.
Ouais.
Moi j'aimerais juste ramener ça en fait à une autre vision du contexte, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a eu une époque où en fait il y a eu plein de bars qui sont ouverts, il y a eu plein de lieux culturels, des restos, tout plein de choses qui sont construites, et on est devenu des pros de l'ouverture des squats et de l'ouverture de lieux et autres. À l'usine, on s'est fait les armes, à plein d'autres endroits où on pouvait plus. Il y avait une armoire dans un squat, une armoire à balai, une pièce qui était libre, une cave, on en faisait un bar, et des bars qui étaient souvent assez magnifiques. Et alors, on n'est pas tous d'accord, mais et entre autres, certains de nous ont acquis des compétences assez importantes sur ouvrir et la gestion et autres. Et c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer, mais ça semblait juste naturel de pouvoir, de pouvoir se mettre à ouvrir des lieux et des bistrots, Et donc, la buvette, c'est une suite logique dans ce sens-là, de pouvoir utiliser nos compétences nouvelles, acquises, et de pouvoir ouvrir ça. Donc, tout de suite, juste dire que Felschlossen, ce n'est pas une référence, mais les fournisseurs de bière et autres nous connaissaient bien, parce qu'on est devenus vite des très, très bons clients, puisqu'on achetait. Alors depuis, heureusement, on a trouvé d'autres sortes de fournisseurs, mais je veux dire, ils nous ont donné les frigos parce qu'ils savaient qu'on était sérieux,
qu'on
y allait. Mmh. Et donc juste rappeler ce contexte-là.
En l'occurrence, ceux qui nous ont trouvé sérieux, c'est aussi l'association de quartier, les habitants qui nous ont fait confiance et qui nous ont avancé de l'argent pour pouvoir transformer le local. Et ça, c'était pas gagné, tout ça, ça prend beaucoup de discussions, de réunions, et il faut que tout le monde soit d'accord sur un projet, et c'est pas si simple que ça. Mais on peut leur être reconnaissant d'avoir fait ce geste.
Okay.
C'était aussi pour eux.
Et puis, il y avait les compétences dont je parlais. C'est pas seulement de savoir tenir et ouvrir en bar et autres. C'était aussi parce qu'il y avait une entreprise qui savait faire du gros œuvre avec des personnes qualifiées. Puis là, Serge, si ce travail, il fallait remettre en état l'espace de la buvette. Et ça, c'est une époque aussi où on avait, j'aimerais bien que t'en parles, Serge.
Disons qu'on n'avait pas beaucoup de boulot, alors ça nous arrangeait de faire un truc dans le genre.
Oui, mais vous étiez qui?
Bien le micro devant la bouche.
Marcel et moi, on a été engagés un peu à l'insu de notre plein gré par état d'urgence de l'usine pour être les contremaîtres de la rénovation intérieure de l'usine. Donc évidemment, on a accepté, et c'était le moyen pour les pouvoirs publics de l'époque de nous subventionner l'usine sans la subventionner. Ça veut dire on soumissionnait pour des travaux, et puis si on était les moins chers, on avait le boulot et on faisait ce travail. On essayait de dégager des bénéfices, et avec ces bénéfices, l'usine pouvait se monter, on achetait du matériel, etc. Puis petit à petit, on s'est émancipé de ce contexte de l'usine. L'usine fonctionnait aussi, et puis il n'y avait plus vraiment besoin de nous. On a fait des chantiers à droite et à gauche, et puis voilà, un jour, on s'est retrouvé ici, quoi.
Alors, vous avez parlé de l'usine. Quelles étaient-elles, ces associations, ces pairs, ces collaborations? Y avait-il effectivement d'autres squats qui étaient solidaires? Est-ce que vous alliez vous fallait beaucoup solliciter des gens, ou est-ce que les gens se sont assez vite rapprochés de vous pour vous dire c'est génial ce projet, on va vous accompagner, on va lutter avec vous?
Ouais, je me rends compte que c'est génial. Les souvenirs, en fait, chacun a ses propres souvenirs. Ils se contredisent et ils se complètent. C'est magnifique. Moi, comme je vois la chose, l'usine, ça démarre un truc assez bien. C'est que c'est une entreprise, il faut, par rapport à l'État, à la vie, aux propriétaires des bâtiments, il faut assurer un peu, il faut assurer un petit peu. Ce qui est bien de ce qu'on a fait, c'est d'employer, si tu veux, les utilisateurs comme intervenants dans les chantiers et tout ça. Et ça donnait un autre truc qui vient après, je ne vais pas en parler maintenant, mais pour rénover certains squats qui sont devenus des coopératives, on a fondé une association de travail qui s'appelait, une coopérative de travail qui s'appelait Casa Nostra, pardon. En fait, c'est la suite logique de ce que Serge parlait avant. Ça veut dire on rénove avec les utilisateurs. Et on les assure, et le travail est payé, etc. Et en fait, je pense que si ça se trouve, la buvette, c'est un peu le point de départ de cette philosophie. Mmh. Elle a disparu au moment où tous ces maisons, ces squats ont été rénovés. Et puis les coopératives, maintenant, comme on l'a vu, ça passe à autre chose. C'est la coda, ça brasse des milliards et tout ça. On est passé dans une autre logique. Mais disons, cette époque, elle est marquée par cette situation.
Alex, oui?
Oui, juste dire au niveau du soutien, il était de toutes sortes. Mais une des choses, c'est que ce lieu, tout de suite, s'est prêté à la fête. Et la buvette, d'emblée, je reviens là-dessus, c'est un lieu festif. On faisait simplement des ouvertures. L'idée, c'était d'ouvrir le quartier à la population des environs. C'était pas de faire un lieu fermé. Il y avait des tensions là-dessus. Il y a des gens qui auraient préféré un lieu plus intime, ceux où on se retrouve entre pairs. Moi, en tant que premier gérant et avec le soutien des personnes qui avaient bossé, on avait plutôt de l'optique de se dire, mais non, il faut un lieu qui soit ouvert sur l'ensemble des choses, de pas faire un lieu fermé, pas faire un nouveau squat, bistrot de squat, mais de vraiment faire un bistrot de quartier. Et ça a vraiment pris. T'avais des grand-mères qui passaient, qui venaient s'arrêter, qui venaient boire des verres. Et le soir, y avait une ambiance vraiment festive avec des concerts, avec tout de suite, ça a pris. Et avec une décoration très soignée, on avait la chance d'avoir des amis qui venaient. Alors, c'est peut-être le soutien à part ça, c'est des gens qui sont venus amener des machines à café, des ferblantiers qui sont venus spontanément travailler, mettre en place le zinc. C'est des gens qui sont venus, qui ont vu la beauté du lieu, qui sont venus amener des vieux trucs de chantier, de chantier de bistrot, de mobilier de bistrot. On a eu plein de solidarité de toutes sortes. Et puis, les gens qui sont venus faire des concerts gratuitement, il y avait toute cette ambiance-là. Il faut peut-être nommer aussi le fait qu'à l'époque, il y avait encore des concerts à la cave qui étaient mis en place par Philippe Eby, qui avait aussi fait tout un travail. Donc, le soutien, c'est une construction. On est là les trois, mais c'est une co-construction de plein de monde, que ce soit au niveau, de toutes sortes de niveaux, quoi. Il y a eu plein de personnes prêtes à mettre des coups de main. Je voudrais juste encore dire une chose pour ne pas avoir l'occasion de le rater, c'est qu'effectivement, on s'est tous donné beaucoup de peine. Alors, c'est plus facile lorsque c'est festif et que ça marche bien, mais qu'on a quand même réussi à rembourser. Donc ça a coûté. Il y avait des bennes qu'il fallait remplir, parce qu'il a fallu sortir des choses. Il y a eu des salaires qui ont été payés quand même. Et puis, on a quand même réussi à rembourser une année et demie, une trentaine de milliers de francs, quand même une large somme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça puisse exister sur des bases solides. Il y a quand même, tout a été fait, le lieu a été fait, et on l'a légué ensuite à des collectifs qui ont repris derrière. Les troupes sont venues, des nouvelles personnes ont repris, et puis ça continue à vivre, et c'est ça qui nous réjouit les trois, c'est de savoir que ce qu'on a mis en place, que ça puisse perdurer, et je crois que ça nous rend les trois très fiers, plus tous ceux qui ont participé peuvent aussi se sentir très fiers que ça existe encore aujourd'hui. Hein, Marie-Lou? À côté de nous, c'est celle qui fait
la balade
des squats.
Oui, l'historienne des squats, elle va parler un petit peu.
Marie-Lou, tu sais, tu prends la parole quand tu veux. On a déjà heureusement pu se parler, mais si tu as des envies de contribuer, de dire.
Impliqué dans le gras, quoi. Du...
Alors, justement, cette implication était-elle aisée ou au-devant de conflits à l'interne, le processus de décision était-il compliqué? Ce que je veux dire par là, c'est que, de temps en temps, on se dit, on va fonctionner en autogestion, horizontalité complète, les décisions seront prises par le consensus et non pas par le vote. Enfin, voilà. Il y a des implications politiques qui peuvent être là. Comment et quelles étaient les vôtres?
Il n'y a jamais eu aucun problème.
Ah, c'est génial. J'ai un doute.
Mais je crois que. D'avoir des doutes.
Il y a quand même une des règles, c'est que c'est celui qui dit qu'il faisait. Quoi. À un moment donné, il y avait quand même ça. C'est-à-dire que si tu es motivé, si tu as envie que ça aille te prendre une direction, tu y vas, mon gars.
Oui, mais ça se passe il y a une trentaine d'années. Hein, juste pour dire, pour maintenir tout ça, il faut une construction.
Alors ensuite, il y a le chemin après. Mais au début, il a fallu, je crois que c'était quand même un portage collectif et individuel. Et après, ben, il y a eu un portage plus collectif avec toutes différentes strates de différentes personnes qui sont venues, qui ont chacun amené leur pierre, leur couleur. C'est pas pour rien que ça existe encore aujourd'hui, quoi.
D'accord. Deux plans sur lesquels j'aimerais bien vous entendre et qui souvent compliquent l'affaire dans des aventures collectives comme celle-ci. La programmation, comment est-ce qu'on décide de quelle programmation fait-on, plus des concerts, du théâtre, des conférences, est-ce qu'il y a des groupes engagés qui vont venir, est-ce que les Antifa viendront, est-ce que si, est-ce que ça, première chose. Deuxième volet de la question, c'est la politique des prix. Est-ce qu'on fait une entrée, est-ce qu'on fait pas l'entrée, est-ce que les bières seront à 5 francs ou à 2 francs, tout ça. Ça, c'est souvent voilà, des choses qui sont récurrentes dans l'existence des collectifs, tels que les vôtres et pas que. Alors, qu'en était-il pour vous? Comment ces décisions-là ont-elles été prises?
Alors, je vais parler au nom de l'association de quartier des habitants de l'île 13. Ce qu'on a fait pour la buvette, l'écurie, c'est un peu le rez-de-chaussée est géré par la même équipe. On a une splendide équipe qui programme à peu près 3 ou 4 concerts par semaine à des prix défiant toute concurrence. Ce qu'on a décidé par rapport au plan financier, parce que comme je l'ai dit avant, donc on a emprunté environ 250 000 francs pour la programmation de la maison, pour la rénovation, la construction et tout ça. Et donc on paye des loyers, on rembourse à la banque alternative un emprunt qu'on a fait il y a, c'est un peu plus tard que 1991, mais je dirais que ça fait 17 ans à peu près que cet emprunt est court. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un loyer très bas pour le rez-de-chaussée, pour justement pas être prisonnier de la vente de bière, d'alcool et tout ça, pour que les gens soient un peu libres, pour faire de la culture bon marché et tout ça. Ça fonctionne comme ça. On dira que de toute façon, toute la baraque, donc on a parlé du ré, jusqu'à présent, tout le haut, c'est des ateliers où il se passe un peu de tout, de la peinture, de la danse, du cinéma, de la photo, plein de choses. Et tous ces gens payent un loyer, donc, et on a équilibré ça pour que le rez-de-chaussée ne soit pas prisonnier de cette histoire financière. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et j'espère que ça va durer encore un moment. Comme je l'ai dit avant, on a une équipe formidable qui marche maintenant depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus, 7 ans, et on est très content d'eux. Le patron de tout ça, c'est l'association de quartier. Comme tu l'as dit, c'est un truc horizontal, c'est une réunion par semaine depuis 30 ans. Qui fonctionne toujours avec tous les petits soucis, les prises de gueule et tout ça, mais qui fonctionne avec sérénité, tout ça marche très bien.
D'accord. Concernant donc la programmation et la politique des prix au bar, y a-t-il d'autres choses que vous souhaiteriez dire? Est-ce que voilà, effectivement, on a un petit peu fait le tour là.
La volonté, c'est que ce soit un lieu populaire.
Voilà, accessible.
Ça ne peut pas être autrement. Ça doit le rester. Gentrification ne passera pas par nous.
Alors, très bien, si tu me livres une transition toute faite, eh bien, nous ne l'avons pas encore fait. Puisqu'on est sommes à la radio, il va falloir que quelqu'un ou que tout le monde ici présent décrive un peu ces lieux. Quand on arrive ici devant, on a une petite place et puis nous avons une maison, effectivement avec un étage, avec un rez-de-chaussée, avec une cave. Qui aimerait, ou chacun de vous décririez un espace? Quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on découvre? Une maison, à quoi ressemble-t-elle en quelques mots?
Tu fais comme si tu n'étais jamais venu.
Ouais.
Comme si j'étais jamais venu, c'est difficile, mais voilà, on arrive dans une toute petite cour, un peu coincée entre une route à assez fort passage et puis un parc. Et puis, au fond de cette cour, il y a une petite maison avec une arcade qui est éclairée et puis énormément de gens devant qui sont en train de boire les verres et de rigoler.
Voilà. Ensuite, Alex, on a un premier étage, effectivement.
Alors moi, c'est plus la vision un peu historique. C'est que je vois, c'est un vieux bistrot qui est encore vivant aujourd'hui. Et quand on dit vieux bistrot, c'est un vieux bistrot parce qu'il a dû être ouvert vers, en tout cas, les 1830. Donc rien qu'en ça, c'est déjà, ça donne déjà une couleur. C'est un lieu qui a une âme.
Absolument.
Et puis c'est un lieu tout de suite, on se dit qu'on est un peu en dehors du Genève, du fric et autres, quoi. Donc avec toute la valeur que cela apporte.
Ouais. Marcel, voudrais-tu ajouter quelque chose concernant également, parce qu'il y a une cave, on l'a dit tout à l'heure, la cave était utilisée à l'époque, elle est différemment maintenant.
La cave actuellement, c'est juste un dépôt pour le rez-de-chaussée. Donc il s'y passe peu de choses, à part l'anniversaire qu'on a fait des 30 ans de l'association, des gens qui ont vidé la cave et qui ont refait des concerts, comme à la bonne époque de La Rage qui vit, Philippe Eby et ses acolytes, qui était une période magnifique, qui est un peu pré-association, si on peut dire. Mm. Ce que je veux dire juste, c'est que je reviens là-dessus, c'est ces réunions chaque semaine et tout ça, c'est tout un quartier qui se défend par rapport à l'agrandissement de la gare, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein centre-ville et que c'est assez rare de se trouver derrière la gare avec un espace comme ça, un petit peu libre, avec des arbres, avec des gens. Toutes les cours du Gautret sont gérées par l'association, ce qui n'est pas toujours évident. Ce que je veux dire, c'est quand même un gros travail. Et environ tous les 5 ans comme ça, il y a des menaces de démolition, donc il faut une association un peu forte pour maintenir ces endroits. C'est jamais gagné à perpète, je dirais.
Oui. Et donc on a à côté de l'arcade, voisin de l'arcade dans la maison, eh bien, l'écurie, la salle de concert, pour laquelle on a dit qu'il y avait chaque semaine plusieurs concerts qui ont cours encore maintenant.
Absolument, comme moi je me couche tous les soirs à 7h30, je fréquente un peu moins ces endroits qu'avant, mais je peux vous dire que c'est très vivant. On a quelques plaintes de temps en temps, mais finalement, en accord avec tout le quartier, ça se passe plus ou moins bien.
Très bien, on va faire un petit tour de questions, si par hasard des questions surgiraient parmi nous. Eh bien, vous êtes les bienvenus, il faut juste nous faire signe et puis on a un micro pour vous. Pas pour le moment, alors on continue puis on verra par la suite. Concernant le financement de tout ça, donc on l'a dit, le bar, vous vouliez exprès ne pas en être tributaire. Donc, y a-t-il par ailleurs d'autres apports ? Est-ce que voilà, vous faites de temps en temps des campagnes de dons, telles que justement à la radio on lance maintenant ? Est-ce que des petites subventions ont-elles été envisagées ou que justement pas ? Tout ça, c'est des décisions qui des fois impactent beaucoup l'équipe aussi, on le sait. Qu'en est-il pour l'écurie ?
Alors, très simple, l'association de quartier des habitants du Gautret, zéro subvention, jamais. Sauf, le droit de superficie est gratuite. C'est tout ce qu'on a.
Très bien. Et ça, c'est quelque chose que vous revendiquez. C'est un choix éminemment politique.
Absolument. Les subventions, c'est comment dire ? Pour moi, c'est un piège. Bon, je comprends bien que quand on fait du théâtre, des choses qui sont moins, rapporte moins que de vendre de la bière et du vin blanc. Je comprends bien qu'on puisse avoir besoin de ça pour faire de la culture. Mais ici, on se débrouille sans subvention et on a maintenant. Donc, les concerts sont souvent au chapeau. C'est du gros budget. Hein.
Oui.
Mais les subventions, jamais, parce que c'est mettre la main dans un engrenage qu'on ne contrôle plus, en fait.
D'autres remarques à faire à ce propos ou je passe à la suite ? Je passe à la suite. Qu'en est-il de ce lieu en tant que résultat de toute cette aventure-là? On l'a dit, c'est né à un moment où il y avait, on arrivait un peu à la fin de cette période-là, mais il y avait pas mal de squats, il y avait des mouvements sociaux qui étaient clairs, qui étaient forts. Le rapport de force a changé depuis. Pensez-vous qu'une telle aventure serait possible actuellement avec ce qui se passe autour de nous, ou est-ce que peut-on dire que c'est là un des résultats et une des vertus des squats et des occupations de l'époque, qu'actuellement eh bien c'est une période creuse, mais que nous souhaitons toutes et tous ici que ça reprenne. Et peut-être que Marie-Lou à ce moment-là voudra commenter un petit peu vu sa posture de guide de l'histoire des squats ici à Genève. Qui aimerait commencer à porter des éléments de réponse?
Je ne sais pas si c'est une période creuse, mais en tout cas, voilà, on a bien vu qu'il y a eu plein de générations qui se sont succédées ici. Chaque fois que les gens vieillissent, il y a des jeunes qui viennent par derrière. Et puis, bien sûr, tout est possible. Comme on peut faire un bar dans un réduit, on peut faire un bar dans son appartement, on peut faire un spectacle de rue, on peut faire... Le monde est toujours, appartient toujours à ceux qui ont envie de faire des trucs, quoi.
En ce qui me concerne, disons que ces années des années 80, ces années de squat m'ont permis de me construire et de faire ce que je suis aujourd'hui. C'était une opportunité pour des personnes qui... des gens plus ou moins simples, de pouvoir avoir l'occasion d'expérimenter le fait de pouvoir ouvrir des lieux et créer des événements. Enfin, c'est des opportunités qui étaient assez magiques et je le souhaite à toutes les personnes aujourd'hui, mais le contexte est malheureusement totalement différent aujourd'hui.
On peut dire qu'il y a de nombreuses rencontres qui ont pu se tenir, justement, qui ont pu avoir lieu du fait de ce type d'espace et que eh bien, ces rencontres, peut-être, sont-elles devenues plus compliquées, plus difficiles à faire. Marie-Lou, voudrais-tu nous dire quelques mots de cet espace-ci, toi qui justement t'es penchée sur l'histoire des squats, toi-même étant une ancienne squatteuse, squatteuse.
Oui.
Alors, ce coin-là contient-il quelques singularités que tu as envie de nous révéler ?
Je connais Serge, Alex et Marcel depuis les années 80. C'est sûr que je venais ici aussi parce que c'est des gens que j'apprécie. Et j'ai continué à venir après que j'ai arrêté de squatter. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment travaillé sur ce quartier, puisque les gens qui habitent ici le défendent très bien et ils racontent l'histoire à leur manière, qui est bien plus pertinente que je ne le ferais puisque j'habitais pas ce quartier. Et c'est pour ça que je souhaite pas spécialement intervenir. J'apprends énormément de choses, même si c'est pas des choses qui me paraissent étrangères, quoi. Mmh. Voilà.
Par contre, pour toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, on pourrait les renvoyer à ton site sur lequel il y a des informations, parce que c'est important cette autre histoire.
Oui, il y a entre autres des vidéos qui retracent un peu l'ambiance de cette époque-là.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait, comment les personnes,
malheureusement, il y a beaucoup de vidéos d'expulsion. Ce qui attire les journalistes.
Ouais. Voudrais-tu nous donner le lien ou pour que les personnes qui puissent justement puissent s'intéresser.
Mon site c'est Genève-Calvingrad avec un K.ch. Et Calvingrad au départ c'est pas par rapport à l'usine, enfin à la salle de l'usine. Je crois qu'en fait, on est venu vers ce mot écrit de cette façon, toutes les deux parties, parce qu'en fait, Calvingrad, à l'époque, je crois qu'il y a eu une chanson d'un groupe qui fustigeait le fait que Genève, on n'avait rien le droit d'y faire et que c'était la ville de Calvin austère. Et pour moi, c'était ça, c'était dire que je montrais les deux aspects de Genève, quoi.
D'accord, voilà. Ouais, très bien, très bien. Alors, nous allons doucement arriver au terme de cet entretien. On fera encore un petit tour de table si les personnes souhaitent vous questionner. Deux petites questions et puis ensuite, eh bien, vous commenterez à votre guise si j'ai oublié de vous poser quelques questions. Le nom, j'aimerais juste qu'on dise quelques mots du nom. L'écurie, vous avez ébauché un petit peu la réponse tout à l'heure, mais comment ce nom est-il né ou comment l'a-t-on conservé, l'écurie?
La buvette des crepettes, ça a été choisi un peu. La buvette des crepettes, c'est venu comme ça, un peu spontanément. Ça semblait une évidence. Je regarde mes collègues là. Ça s'est choisi comme ça parce que buvette, c'est sympathique. Crepettes, on est juste en face du parc. Et puis, voilà.
Là, il y a cette image, cette photo ancienne qui date de 1830, justement, où on voit à droite, donc à l'époque, donc, c'est l'hôtel des commerçants qui accueille les commerçants de la route de Paris pendant que les murs de la ville sont fermés à Cornavin. Et à droite, c'est marqué restaurant et buvette, sauf erreur de ma part. Voilà, et à gauche, ici, c'est marqué écurie et garage. Donc, ça reçoit les chevaux et tout ça. Et ces termes-là, je ressens mieux. D'ailleurs, dans l'écurie, ce qu'on appelle, nous, anciens habitants, l'écurie, c'est-à-dire la salle de spectacle, il y a encore les boucles pour attacher les chevaux qui traversaient. Donc, je pense que les termes viennent de là.
Très bien, très bien. On s'arrête là. Je voulais encore juste vous demander, vous, comment vous voyez l'avenir de ce lieu-là, l'avenir en général. Qu'est-ce qui vous habite maintenant que vous constatez que cet espace a l'air d'être présent, consolidé et donc outillé pour la suite des événements. Vous le voyez, vous êtes en confiance, vous vous dites, en tout cas, ces 15 prochaines années, c'est sûr. Et ensuite, est-ce que vous projetez un petit peu dans l'avenir qu'en est-il?
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit sûr pour 15 ans. Je vois que la ville change énormément. Je vois que la pression foncière est énorme. On est au centre-ville. Il y a des enjeux financiers qui sont dingues par ici. Et je pense que ça passera encore par des luttes et encore par des gens qui veulent défendre leurs acquis.
Donc des menaces toujours présentes et rester en alerte, c'est fondamental.
C'est clair.
D'accord. Merci beaucoup Serge. Alex ?
J'ai rien à rajouter à ça, mais je laisse peut-être le mot de la fin à Marcel qui est vraiment lui très présent encore aujourd'hui sur le quartier. Et je le remercie, ainsi que toutes les personnes qui continuent à être actifs au niveau de la buvette et qui continuent cette belle histoire.
Merci Alex.
Serge l'a bien dit, en fait tous les 5 ans ici il y a des menaces, il ne faut pas rêver. Effectivement il y a un droit de superficie qui dure encore 13 ans. Donc en théorie, si dans 13 ans l'association de quartier est active et qu'elle continue à remplir sa fonction, ça devrait continuer. Sauf qu'il y a des menaces beaucoup plus lourdes qui sont le grand capital, les CFF et autre chose. Juste pour dire, en 2012, on a vu un plan où, qui rasait à peu près la moitié du quartier. Et là-dessus, la ville, c'est une petite commune par rapport à la Confédération. Donc, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas des activités fortes au niveau politique, un rapport actif avec le politique, tout ça est...
précaire.
Voilà, tout ça est prêt.
Ouais. Voudriez-vous, pour terminer, si c'est le cas, lancer un ou des appels à ce que, voilà, eh bien, toutes les personnes qui vont nous écouter, eh bien, elles viennent à l'écurie, elles viennent à la buvette des Cropettes, qu'elles viennent au concert, qu'elles viennent faire coucou, qu'elles rejoignent peut-être le collectif d'habitantes et d'habitants. Y aurait-il quelque chose à lancer ?
Non, je crois qu'on n'a pas besoin de plus. Enfin, il faut que ça continue à fonctionner comme ça. On en a parlé un petit peu avant. La relève, c'est important. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Nous, on est un peu des vieux croulants, donc on espère bien que. Mais disons, au niveau d'occupation de la maison, il y a quand même un peu de jeunesse et tout. J'espère que ça va continuer comme ça. À un moment donné, nous, on va s'effondrer. Et il faudra que ça perdure. Donc voilà, j'espère. Et j'appelle les gens, bien sûr. C'est une grande famille ici qui fonctionne très bien. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin des internationaux. On n'a pas besoin de soutien politique plus que ça. On a juste besoin d'avoir un relais avec la ville pour dire on existe et on continue et on va rester.
Est-ce que ce seront là les mots de la fin ? Je crois qu'ils sont pas mal pour finir. Merci beaucoup Marcel, merci beaucoup Alex, merci beaucoup Serge.
Merci pour l'accueil.
Avec
merci,
beaucoup
William,
de plaisir.
Merci.
Et puis on se reverra.
Merci à toi.
À bientôt. Et puis nous on le rappelle, voilà, le financement participatif pour la radio est ouvert. Donc vous êtes invités à aller sur le site www.libradio.org pour retrouver tous les podcasts. Et puis pour, si vous le souhaitez, contribuer un petit peu à notre cagnotte populaire solidaire. Et puis sinon ici, la soupe vegan à disposition, gratuite. Et puis les tisanes. Merci encore et bonne soirée.
Merci à toi.
Je fais juste un petit aparté que tu pourras peut-être mettre la fin de.
Oui, bien sûr.
C'est que demain à 13h, à 15h30, au CUAE, qui je me souviens plus ce que ça veut dire exactement.
C'est la conférence donc, universitaire des associations d'étudiants.
Voilà. Donc, je crois que c'est au 6 rue Carvot. Demain, il y a une première re-rencontre des mal logés. Avis aux amateurs, si vous avez des nouvelles choses à revendiquer pour le logement, ben, c'est le moment de vous y mettre. Demain, voilà, vous pourrez donner votre avis et peut-être redonner une flamme pour le futur.
Et si jamais on a l'entretien avec une des personnes participantes qui est déjà sur le site de Libre Radio, on le mettra à la fin du podcast. Merci beaucoup Marie-Lou pour ce rappel.
www.libradio.org La station debout.